La transmission de la culture constitue-t-elle un délit d'initié? Adresse à Monsieur le Premier ministre.
Madame la ministre de la Culture et de la Communication.
Mesdames et messieurs les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Monsieur le président de Radio France.
Madame la directrice de France Culture. Sur la politique actuelle menée à France Culture. Fidèles auditeurs et intellectuels de tous horizons, qui avons contribué à la vie de France Culture, nous sommes un certain nombre à nous inquiéter de l'évolution de cette chaîne. Le discours de présentation de la nouvelle politique de Radio France par Monsieur le Président Jean-Marie Cavada, sous prétexte
d'adapter la chaîne à son époque et de conquérir de nouveaux publics dans une situation de marché concurrentiel,
tend en réalité à liquider les structures et les savoir-faire qui ont fait de France Culture la seule chaîne radiophonique intégralement culturelle d'Europe. Quelles sont les raisons avancées pour une telle adaptation?
Ces évolutions sont nécessaires parce que la radio, même publique, vit dans un univers concurrentiel de plus en plus violent. Radio France ne doit pas reculer. L'attention portée au marché n'est donc pas un renoncement à nos valeurs, mais le souci de maintenir et d'améliorer notre place face à la concurrence.
Ne pas reculer, c'est ici prétendre faire le grand saut dans la logique postulée comme inévitable du système dit concurrentiel. Pour éviter sa marginalisation, il s'agit donc d'aligner une entreprise publique de radio sur le régime de fonctionnement de la concurrence privée. Quelle est donc la nature de cette concurrence? Est-elle financière, ou bien d'ordre culturel, scientifique et éducatif? De plus, qu'apporterait l'entrée dans le marché d'un service public culturel? Des parts de marché? Des contrats d'investissement? Un merchandising de gros rapports, produits dérivés, droits d'exploitation? Rien de tout cela, sinon le mime fantasmatique du modèle de la grande entreprise. France Culture est déclarée
en pleine refondation.
L'évolution décidée de la chaîne viserait ici à
sortir France Culture de son ghetto.
Si au titre d'invité de la chaîne, nous n'avons jamais eu le sentiment d'intervenir dans un ghetto, nous sommes par contre persuadés que la politique mise en place actuellement n'est rien d'autre qu'un appel à une pratique de nivellement pure et simple. Sa mission
originale
serait désormais celle d'un
outil de complément pour des publics qui devront être de plus en plus populaires.
Et non
le refuge des initiés ou des privilégiés de l'accès à la culture et au savoir.
Faut-il en déduire qu'à trop écouter un tel outil de complément, on en perd de sa fibre populaire pour retourner au ghetto? Monsieur Olivier Keplin, directeur adjoint d'Explicités.
Il est indispensable de permettre aux jeunes générations d'expliquer leur monde avec leur propre langage et d'apporter une vision un peu moins scientifique et élitiste de la culture.
Remplaçons donc le ghetto fantasmatique des intellectuels par un bantoustan jeune. Il s'agit néanmoins, dans le discours officiel, de maintenir malgré tout la spécificité de France Culture. Quelle est donc cette logique qui prétend ne rien changer quant à cette spécificité, tout en dérivant ouvertement vers une démagogie anti-scientifique et un populisme anticulturel? La transmission de la culture n'a jamais été de l'ordre d'un délit d'initié. Cette politique est mise en œuvre par une programmation de la disparition progressive du métier de producteur. Déclassés au rang de bobineaux reporters, ils font désormais fonction de doublure auprès des nouveaux venus inexpérimentés, jeunes témoins de leur génération ou vieux routards de la presse écrite. Par une substitution aux journalistes scientifiques, gage permanent d'ouverture et d'objectivité de quelques universitaires perdus dans le gotha de la presse écrite. Deux précisions sur ce point. Tout d'abord, si écrivains, musiciens, cinéastes et universitaires ont toujours été les hôtes privilégiés des émissions culturelles, il nous semble des plus malsains de les voir occuper des postes qualifiés revenant en principe à des professionnels de la radio. Dans cette nouvelle situation, on est en droit de se demander comment les critères d'objectivité et de professionnalité spécifiques qui ont fait le caractère précieux de cette chaîne pourront être sauvegardés. C'est l'incontestable rôle de médiation et de neutralité scientifique et institutionnelle des auteurs-producteurs et des journalistes scientifiques qui a permis que de véritables débats, très appréciés des auditeurs, trouvent leur place au cœur de ce service public. Leur statut professionnel d'auteur à part entière est la reconnaissance d'un professionnalisme technique doublé d'une solidité culturelle qui leur permet de faire face avec créativité au péril du direct. Aujourd'hui, la transmission culturelle par les médias exige l'intervention de spécialistes professionnels. Quant à l'attribution de responsabilité d'émission à des représentants en titre de la presse écrite et de l'édition, elle nous paraît relever d'une transaction entre un service public offrant ses micros et un puissant secteur privé, assurant en échange un protectorat des plus complaisants. Il y a quelque temps, et plus à l'est, ont qualifié de nomenclatura un tel système d'échange entre protecteurs et protégés. Nous sommes sur ce point particulièrement inquiets de voir s'installer un véritable risque de lobbying, et ce au nom d'une prétendue
ouverture sur l'extérieur,
qualifiée de
partenariat,
dont les nouveaux mots d'ordre sont
séduction, air du temps, lifting, violence de l'univers concurrentiel, marché,
ou encore
le contrôle est la rançon de l'autonomie.
Il en restera toujours quelque chose. Baisser le niveau de l'écoute critique en renforçant un simulacre de diversité contrôlé par une médioclature parisienne. Cette politique consiste de plus à prendre les mesures qui, sous prétexte d'économie, amputent gravement le potentiel de valorisation de la chaîne à l'encontre de sa vocation de service public, c'est-à-dire réduire considérablement le recours au texte. Les comédiens qui nous aident à entendre ces textes, documents, fictions, etc., se trouvent dépossédés d'une part de leur pratique artistique par une entreprise qui était jusque-là leur principal employeur. Connus ou moins connus, les comédiens ont toujours apporté non pas un complément d'écoute, mais bel et bien un supplément d'intelligence de l'écriture. C'est encore réaménager les nuits de France Culture à travers le projet de rediffusion immédiate des émissions du jour. Les conséquences d'une telle décision impliqueraient à la fois l'annulation du paiement des droits de rediffusion pour les auteurs-producteurs et le gel définitif de l'immense patrimoine d'archives de la chaîne. C'est enfin violer les principes fondamentaux du respect de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur par la commercialisation sauvage des produits dérivés sous couvert de
la violence de l'univers concurrentiel
et de la nécessité pour le service public de
se donner les meilleurs moyens de se battre à l'extérieur.
Point auquel il faut ajouter l'actuel contentieux opposant Radio France à ses propres producteurs sur la question de la formulation inique des contrats.
Les signataires de cette adresse,
auditeurs attentifs, prescripteurs indépendants ou libres invités,
manifestent leur indignation à l'égard d'une telle politique culturelle et n'entendent collaborer en aucune manière à sa mise en œuvre.
Et n'entendent collaborer en aucune manière à sa mise en œuvre.